Bonjour, au sommaire aujourd'hui. Le feu est désormais complètement éteint dans le massif des Maures, le massif qui reste interdit au public. Mais pour France Inter, Célia Quiret a pu suivre une patrouille de surveillance. Quels dégâts après une semaine d'incendie. Le chômage, à nouveau en baisse en juillet. En cette rentrée, le sujet d'inquiétude pour les entreprises, c'est la difficulté à embaucher. La question des hausses de salaire pour attirer les candidats est posée, reconnaît le président du MEDEF. Rentrée du gouvernement aussi, Afghanistan, Covid, politique, pas moins de 3 conseils ce matin, de défense sanitaire ou des ministres, les grands dossiers avec Simon Le Baron. La porte se referme pour les Afghans qui veulent quitter leur pays aux mains des talibans. Les Américains partiront bien le 31 août. Autre question, nous verrons cela avec Bertrand Galichet. Que va devenir l'aide internationale? Comment faire pour qu'elle bénéficie aux Afghans et pas aux talibans? Dans l'actualité encore, les Jeux paralympiques, 2 médailles pour la France et un dernier salut à Charlie Watts. Nous irons à Marseille pour cela.
France Inter.
Décidément, les éléments s'acharnent sur le département du Var. Après le feu, les inondations, gros coup d'orage hier, pas de victimes, mais des dégâts matériels. Parmi les zones touchées, celle du Gonfaron, où le feu a ravagé plus de 7000 hectares et tué 2 personnes la semaine dernière. À quoi ressemble une forêt après l'incendie? Quel travail mener? Faut-il laisser la nature repartir toute seule? C'est une question clé après cet été marqué par les incendies en Europe et aux États-Unis en particulier. En France, le brasier dans le massif des Maures est complètement éteint depuis hier, mais des pompiers, bien sûr, patrouillent toujours et des bénévoles viennent aussi constater les dégâts. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Bruno.
Le massif est toujours interdit au public, mais vous avez pu accompagner une patrouille.
Oui, hier, précisément au bois du Roucan, un cendrier géant, les bénévoles cherchent des traces de vie animale sous les pierres. Anne Maillaridou est garde de réserve, très émue encore une semaine après.
On n'avait que les yeux pour pleurer, quoi, de voir toute la forêt partir en flammes. Donc moi, c'est mon bureau, mais c'est aussi ma vie. Dans la nuit de lundi à mardi, c'était toutes les larmes. Et là, c'est les yeux qui furettent de partout, l'oreille. Voilà, on est dans l'action, je le répète, et c'est ça qui fait tenir. C'est un patrimoine, le joyau du département.
Certains arbres aux troncs morts risquent de tomber à tout moment. Il faudra des décennies pour revoir certains pins parasols. Ils peuvent en effet se régénérer grâce à leurs graines. Mais les scientifiques comme Romain Garouste du Muséum d'Histoire Naturelle insistent. Il ne faut pas replanter de manière intempestive et surtout pas d'autres arbres comme des eucalyptus.
En tant que citoyen, on est dévasté comme le paysage. En tant que scientifique, on l'est un peu aussi parce qu'ici, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées depuis une dizaine d'années, la création de la réserve et pour préserver ces espaces. Donc là, il y a une reprise, là. Il y a un arbre qui brûle. Pour moi, c'est une catastrophe écologique. Et pour revenir au même type de végétation, il faudra attendre 20, 25 ans ou plus.
Mais avec les orages comme ceux d'hier ou de nouveaux risques de feu, la réserve est fragile. Naïs, saisonnière, a un message à faire passer.
Ne pas arracher des plantes, ne pas embarquer une tortue. Ça rentre en fait dans les mentalités. Un mégot par terre, ça peut engendrer un incendie sur 20 km. Il y a des endroits où on voit en fait de la cendre blanche avec un gros trou. Bah ça, c'est un arbre, il n'y a plus rien. Un mégot égale 2 personnes décédées quand même.
Ces tournées ont lieu chaque jour pour préserver ce qui reste. Des citernes d'eau vont être apportées pour hydrater le sol et la faune. La réserve de la Plaine des Maures panse toujours ses plaies.
Merci Célia Quiret. Le temps de ce jour, c'est soleil et température de saison. Des risques d'orage dans les Alpes. Nous écouterons Élodie Calac à la fin de ce journal. Après un an et demi de confinement, de fermeture administrative, de couvre-feu et de passe sanitaire, on pouvait redouter que le sujet économique de la rentrée, ce soit le chômage et les faillites d'entreprises. Eh bien, ça n'est pas le cas, pas pour l'instant en tout cas. Le chômage est à nouveau en baisse en juillet. Les chiffres viennent d'être diffusés, moins 1,6% en particulier pour la catégorie A, aucun emploi malgré une recherche active. Depuis mai dernier, 267 000 personnes en moins dans cette catégorie. Le chômage est revenu à son niveau d'avant-crise et la prévision de croissance pour cette année est de 6%. Autre actualité économique, mardi prochain, le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés dans tous les secteurs où il est exigé pour le public. Le MEDEF y est favorable, s'il reste temporaire. Mais alors que le patronat fait sa rentrée, avec 2 jours de débats et de conférences à Longchamp, le sujet, c'est le manque de main-d'œuvre, au point que les salaires pourraient augmenter pour attirer les candidats. Écoutez le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
On a un énorme problème de recrutement dans ce pays. Et c'est vrai que là, il y a presque des injonctions contradictoires. On nous dit embaucher, augmenter les salaires. Et de l'autre, on nous dit, bah oui, mais il faut qu'ils aient le pass sanitaire. Donc, il va falloir qu'on trouve un équilibre là-dessus. Encore une fois, si c'est temporaire, ça peut marcher. Si ça l'est pas, on aura un problème. Après, si on augmente les salaires, et d'ailleurs je pense qu'il y aura des augmentations de salaires assez fortes en début d'année prochaine, ne serait-ce que pour une raison d'offre et de demande, pas oublier que derrière, c'est les prix qui vont augmenter. En tout cas, moi ce que je crois, c'est que, vu les difficultés de recrutement, les salaires en début d'année, puisque en général ça se négocie en début d'année, il y aura forcément des augmentations assez significatives l'année prochaine.
Dans tous les secteurs ou uniquement dans ceux qui sont les plus en tension aujourd'hui,
restauration. Partout, mais bien sûr, en priorité dans les secteurs en tension. Enfin, moi je suis très frappé, tous les patrons que j'ai vus cet été, et même avant l'été, leur sujet numéro un, ce n'est plus la pandémie, c'est le recrutement.
Geoffroy Roux de Bézieux, relancé par Marc Fauvel de France Info, le président du MEDEF plaide aussi pour l'application de la réforme de l'assurance chômage, contre laquelle militent les syndicats. Elle doit durcir les conditions d'indemnisation. Il y voit un moyen de fluidifier le marché du travail. Application de cette réforme au 1er octobre. En principe, cela fait partie des questions que devra trancher le gouvernement en cette rentrée, car lui aussi fait sa rentrée. Trois conseils pour le prix d'un ce mercredi. Conseil de défense sanitaire, la rentrée scolaire sera-t-elle reportée aux Antilles? Conseil de défense tout court, quelle réponse à la crise en Afghanistan? Et conseil des ministres à l'aube d'une année de campagne électorale. Simon Le Baron, vous êtes à l'Élysée, l'exécutif veut occuper le terrain sur tous les fronts.
Oui, surtout ne pas subir cette dernière rentrée avant la présidentielle. Ne pas subir la rentrée sociale, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage seront au menu d'une réunion la semaine prochaine à Matignon. Ne pas subir les attaques de la droite sur la sécurité. Emmanuel Macron ira à Marseille annoncer un grand plan pour la ville. Il conclura ensuite le Beauvau de la sécurité. Ne pas subir les critiques sur son bilan écologique. Le président participera au Congrès mondial de la nature. Défendre aussi la relance économique avec un plan de 20 milliards d'euros d'investissement, tenter enfin de rassurer les jeunes précaires avec l'annonce très attendue d'un revenu d'engagement. Vous le voyez, la stratégie est claire. Il s'agit de dicter l'agenda politique, d'obliger les oppositions à courir derrière les thématiques imposées par l'Élysée et Matignon.
Alors, il y a l'ombre et plus que l'ombre du Covid, mais sur ce terrain, le gouvernement est plutôt optimiste.
Oui, l'exécutif n'a pas oublié, c'est vrai, la rentrée 2020, quand la deuxième vague avait totalement éclipsé les 100 milliards du plan de relance. La menace est toujours là, notamment outre-mer, avec ce possible report de la rentrée scolaire dans les Antilles et en Guyane. Mais cette fois, Bruno, la vaccination change tout. 50 millions de primo-vaccinés fin août, c'est toujours l'objectif du gouvernement, un objectif essentiel pour éviter que la reprise épidémique ne vienne balayer cette rentrée politique soigneusement préparée.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée pour France Inter. Sujet prégnant en effet que cette épidémie de Covid et cette question clé, le protocole dans les établissements scolaires à quelques jours de la rentrée, rappelons-le, aération le plus possible, capteurs de CO2, qui les paye? Ce sont les collectivités locales d'abord, dit le ministre Jean-Michel Blanquer. À l'école, fermeture de la classe et enseignement à distance si un cas de Covid apparaît. Au collège, les élèves vaccinés peuvent rester, les autres sont à distance. Port du masque dans les espaces clos, école et collège, mais pas en maternelle. Lundi sur France Inter, l'épidémiologiste Ardo Fontanet, se basant sur une modélisation de l'Institut Pasteur, redoutait qu'à l'automne, la moitié des nouvelles contaminations aient lieu chez les enfants, population qui n'est pas vaccinée. Alors comment laisser les écoles ouvertes avec les meilleures conditions de sécurité? Sophie Becherel, une équipe de scientifiques, s'est penchée sur la question.
Des virologues, des infectiologues et des modélisateurs de l'INSERM et de l'Institut Pasteur qui ont analysé les données recueillies lors d'opérations de dépistage réalisées dans des écoles primaires et des lycées à Lyon notamment. Ils ont évalué le rôle de ce dépistage dans les classes, parfois réalisé une fois, parfois répété plusieurs fois. Même si le taux de reproduction du virus, aujourd'hui à 1,02, remontait, ce dépistage régulier et répété s'avérerait efficace, explique Vittoria Colizza, modélisatrice à l'INSERM et co-autrice de l'étude, mais il faut un nombre suffisant d'enfants testés.
Par exemple, avec un R égal 1,3 et 50% de personnes qui participent au dépistage, on pourrait réduire de 24% le nombre de cas dans les écoles primaires et 53% le nombre de cas dans les lycées. Et en faisant tout ça, on pourrait réduire aussi de 90% le nombre de jours perdus à l'école.
Or, entre mars 2020 et mars 2021, entre 10 et 40 semaines d'école ont été perdues en Europe. Deuxième outil pour contenir la circulation du virus, la vaccination. Là encore, même si elle n'est possible que depuis mi-juin pour les 12 ans et plus, les scientifiques l'ont intégrée à leur simulation. Ils montrent que la vaccination des enseignants ne suffit pas à limiter la circulation du Covid dans le milieu scolaire, mais avec un certain taux, on pourrait même supprimer les dépistages.
Par contre, si on regarde, par exemple, dans les lycées, la vaccination des adolescentes, si on arrive en couverture vaccinale assez élevée, on pourrait aussi éviter de faire ce dépistage hebdomadaire. Il y en a plus de 50% d'adolescents vaccinés avec un R égal 1,3, mais on devrait avoir une couverture vaccinale plus élevée, plus 70% avec un R égal 2, par exemple.
Donc, conclusion, pour éviter de refermer les écoles, il faut cumuler un dépistage hebdomadaire répété et encourager la vaccination.
Et à ce stade, chez les 18-29 ans, non, ce ne sont pas les lycéens, les 0-17 ans, vaccinés partiellement, 20% vaccinés complètement, 12% selon le site Covid Tracker. Les syndicats d'enseignants demandent un protocole plus strict dans les établissements, masque dans la cour de récré et protocole plus précis à la cantine. Et le flou demeure sur les tests et la vaccination à l'école. Pour les étudiants, la ministre de l'Enseignement supérieur parle ce matin d'une rentrée la plus normale possible. Pas de passe sanitaire, 100% de présentiel, pas de jauge, mais port du masque. Dans la police, hier, le ministre de l'Intérieur avertissait le vaccin pourrait devenir obligatoire si le taux de vaccination n'atteint pas les 90%. Simple hypothèse pour l'instant. Parole de syndicaliste réticent, Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police.
Il nous est impossible d'accompagner le ministère de l'Intérieur s'il venait à décider d'une campagne de vaccination obligatoire dans les rangs de la police. Nos collègues ne nous pardonneraient pas, tant la crise sanitaire a été mal gérée à l'égard des polices. Souvenez-vous de l'épisode du ministre Castaner qui avait dit publiquement que les policiers n'étaient pas en risque. Quelques jours avant le premier confinement, on avait retiré les stocks de masques dont disposaient les services de police. Ensuite, quand la vaccination a pointé son nez, nous demandions à ce que les policiers soient reconnus comme personnel de première ligne, de sorte qu'ils soient vaccinés tout de suite après les soignants. Finalement, les policiers ont pu être vaccinés au même rythme que la population générale, avec juste pour avantage un coupe-fil qui encore n'était pas tout le temps respecté selon les centres de vaccination. Donc, pas vraiment de vaccination accélérée envers les policiers qui, pourtant, tout au long de la crise sanitaire, même à l'occasion des confinements, ont toujours occupé la voie publique.
Un propos recueilli par Ariane Grissel, l'obligation vaccinale existe déjà chez les pompiers. Certains qui y sont opposés avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui rejette leur requête.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
À l'aéroport de Kaboul, ils sont toujours des milliers à vouloir fuir leur pays aux mains des talibans. Mais leurs chances de partir sont un peu plus minces au fil des heures. Joe Biden maintient la date du 31 août pour le retrait des soldats américains qui organisent l'essentiel de l'évacuation. On voit dans un instant une autre question posée aux diplomates du monde entier. Que va devenir l'aide internationale à l'Afghanistan? Mais d'abord, ce pays aux mains des talibans, c'est à nouveau une menace pour les musiciens. La musique bannie par les fondamentalistes qui voient un risque de dévoiement des fidèles. Les talibans 2021 répriment déjà violemment toute activité ayant rapport à la musique. Les stations de radio et de télévision ont cessé d'en diffuser. Des magasins vendant des instruments ont été détruits et les musiciens sont condamnés au silence. Témoignage de musiciens partis récemment en exil. Clémence Pénard.
Zora, c'est le nom du seul orchestre entièrement féminin d'Afghanistan. Zarifa Adiba, 23 ans, y jouait de l'alto. Aujourd'hui, elle étudie au Kirghizistan, mais sa famille et ses anciennes amies musiciennes sont toujours à Kaboul.
Je ne peux pas vous dire à quel point nos instruments comptent pour nous. Nous y tenons tellement, on ne peut pas les casser nous-mêmes. Mais en même temps, mes amis sont terrifiés de garder leurs instruments parce qu'ils ont peur que les talibans viennent chez eux et les découvrent. Et après, qu'est-ce qui se passera? Nous ne savons pas.
Depuis New York, où il vit désormais de sa passion, le piano, Elram Fanouz, lui aussi, est très préoccupé pour la sécurité de tous ses anciens camarades de l'Institut National Afghan de musique.
L'école est fermée, personne ne peut y aller car s'ils y vont, ils pourraient être tués. Donc je suis vraiment très inquiet pour eux. Les talibans sont venus à notre école et ils ont détruit un piano. Enfin, ça ressemble déjà à un désastre. C'est vraiment déchirant de voir la culture sur le point de mourir. On dirait surtout depuis quelques jours qu'on retourne 20 ans en arrière.
La musique, mais aussi le cinéma, la poésie, tout le patrimoine culturel est menacé par le retour au pouvoir des talibans.
Voilà pour ces témoignages de musiciens. En France, la préfète du Bas-Rhin annonce que la ville de Strasbourg accueillera à partir de jeudi et pour plusieurs semaines 150 réfugiés afghans. Nous en venons au sujet de l'aide internationale. La maintenir ou pas? Et comment s'assurer qu'elle aille à la population et pas aux dirigeants fondamentalistes? Bertrand Guélichet.
À son tour, la Banque mondiale suspend ses aides à l'Afghanistan, mais voudrait continuer à soutenir la population. L'institution financière a déjà versé à l'État afghan près de 5 milliards d'euros depuis 2002. La Banque mondiale rejoint ainsi la position position du Fonds monétaire international annoncée 3 jours après l'entrée des talibans à Kaboul. Et tandis que l'Allemagne, première économie en Europe, décide elle aussi de suspendre son aide, 250 millions d'euros étaient prévus, l'Union européenne annonce au contraire le quadruplement de ses financements humanitaires qui seront portés à 200 millions d'euros. Les contributeurs internationaux sont donc partagés entre la nécessité d'aider le peuple afghan et la volonté de ne pas financer les talibans. Mais selon le président de la Banque centrale afghane, réfugié à l'étranger, les islamistes ont accès à moins de 0,2% des réserves financières du pays. L'essentiel des actifs, évalué à près de 8 milliards d'euros, se trouve à la Banque centrale des États-Unis.
Et pour Angela Merkel, la communauté internationale doit continuer de dialoguer avec les talibans. C'est une des phrases diplomatiques clés de la matinée. En France, c'est le rendez-vous des sportifs et montagnards très chevronnés. Chaque année, l'Ultra Trail du Mont Blanc est endeuillé lors de l'une des épreuves qui marque ces quelques jours de course au très long cours en montagne. Un concurrent a fait une chute mortelle de plusieurs dizaines de mètres à Bourg-Saint-Maurice. Jonathan Landais.
Ce coureur de 35 ans de nationalité tchèque a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres sur un chemin escarpé réputé difficile, le passeur de Pralognan à plus de 2000 mètres d'altitude. L'homme participait à la TDS, une épreuve de 145 km parallèle à la course phare de l'UTMB qui doit démarrer vendredi. Les secouristes de la course sont arrivés dans les 2 minutes qui ont suivi la chute, aidés ensuite par les hommes du PGHM de Modane, les secours en montagne, mais le trailer n'a pas pu être réanimé. En 18 ans, il s'agit du premier accident mortel sur l'UTMB. Les organisateurs, évidemment très émus, rappellent que le parcours était très sécurisé, notamment le passeur de Pralognan, un terrain éclairé, équipé de mains courantes avec des guides présents sur place. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Albertville pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident.
Aux Jeux paralympiques de Tokyo, les 2 premières médailles françaises, l'argent en natation pour Hugo Didier, le bronze en cyclisme pour Marie Patouillet. Aux Jeux olympiques, il y a un peu plus de 15 jours, l'équipe de France a décroché l'argent, vous vous en souvenez, battue en finale par les Américains. Le sélectionneur Vincent Collet restera à la tête de l'équipe au moins jusqu'au JO 2024 et il sera parallèlement entraîneur de Boulogne-Levallois. Et puis en football, confirmation du service des sports de Radio France. Le Real Madrid a bien formulé au PSG une offre pour le transfert de Kylian Mbappé, 160 millions d'euros. Offre déclinée selon le service des sports de Radio France. Nous allons à Marseille avant la météo. Le stade Vélodrome est un bon endroit pour saluer une dernière fois Charlie Watts, le batteur des Stones, mort hier à 80 ans. Dans le stade Vélodrome jusqu'au 5 septembre se tient l'exposition Rolling Stones Unzipped qui présente des centaines d'objets du groupe de rock et il y a la batterie de feu Charlie Watts. Reportage Clémence Gourdon.
Marseille, la rebelle, tout autant que le groupe de rock. Ici, les Stones sont venus 4 fois. Mireille a toujours fait le déplacement.
Ça fait beaucoup d'émotions et j'avoue que moi, j'ai quand même la chair de poule. Je pensais pas qu'il était malade au point de partir. Hier au soir, quand une amie m'a prévenu, j'étais pas choquée, mais émue.
Les yeux humides aussi, Serge mitraille de photos la mythique batterie de Charlie Watts, une Ludwig Sky Blue qui a bien vécu.
Elle est impressionnante de... Tellement elle est compacte et de petite taille, ouais, par rapport aux batteries modernes, ouais, j'en trouve petit. Et puis on est impressionné pour voir qu'elle est un peu détruite aussi par endroits.
Elle est très usée.
Les cymbales sont fendues, la caisse est scotchée, elle est défoncée, c'est dans le jus.
Un peu usée aussi, une époque bien différente de celle d'aujourd'hui. Pour Catherine, elle s'envole définitivement avec Watts.
C'était l'époque de l'insouciance, de la liberté, de la joie, du partage, sans contrainte.
Reste Mick Jagger et Keith Richards pour continuer de faire battre le cœur des fans. Les Marseillais espèrent les revoir au stade Vélodrome pour un dernier hommage à Charlie Watts.
Bye bye Charlie et sur franceinter.fr les hommages des rockeurs et chanteurs du monde entier.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le programme, c'est beau soleil partout en France aujourd'hui.
Oui, une très belle journée. On a quand même un petit bémol. Hein. En montagne, des nuages bourgeonnent. Alors une averse peut éclater sur le sud du Jura, sur les Cévennes, sur les Pyrénées, la montagne Corse et des Alpes jusqu'à l'intérieur de la Provence. Des orages sont attendus sous les nuages les plus menaçants, mais l'activité est vraiment moins marquée qu'hier. Sur les régions du Nord, un petit vent de nord-est persiste encore aujourd'hui. Les températures, elles gagnent quelques degrés. Elles sont agréables pour la saison avec 20 degrés à Granville, 23 à Lille, 24 à Metz et à Besançon, 25 degrés à Paris, à Biarritz, 26 36 à Tours, à Lyon, 28 degrés pour Bordeaux et pour Nice, 29 à Toulouse et 30 à Nîmes. Et puis demain, du soleil, des températures d'été sur les régions du sud, mais au nord, ça va se gâter avec l'arrivée d'une dégradation nuageuse et quelques degrés de moins.
C'est bien noté, merci Élodie Calac, Météo France.